Hélène Philly pour l'info. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. La pédophilie dans l'église et ses chiffres vertigineux. Au moins 330 000 victimes ces 70 dernières années dans une indifférence cruelle jusqu'aux années 2000. Ce sont les mots de Jean-Marc Sauvé, président de la commission qui a travaillé pendant 2 ans et demi. Une onde de choc chez les catholiques, une effroyable réalité, s'est ému le pape François. Dans l'actualité encore, Jean Castex promet d'agir sur la fiscalité des prix du gaz s'il ne baisse pas, un amendement ajouté au projet de budget. La lanceuse d'alerte qui fait trembler Facebook aux États-Unis, une ancienne chef de produit de l'entreprise qui témoigne aujourd'hui au Sénat. Et puis, le prix Goncourt revoit ses règles après les révélations de France Inter et écarte le livre du compagnon de l'une des jurées. Et au téléphone sonne Fabienne.
Et bien, après avoir entendu les témoignages de femmes à peine arrivées d'Afghanistan, on va essayer de comprendre maintenant au téléphone sonne ce qu'on peut faire, comment les aider, quelle part pouvons-nous apporter, quel est le travail des associations ou de l'OFPRA qui s'occupe de délivrer des statuts de réfugiés. On voit comment tout cela fonctionne, on le voit ensemble avec vos réactions, avec vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est un état des lieux effarant, accablant. En 70 ans, 216 000 mineurs ont été agressés sexuellement par des membres du clergé. 330 000, si l'on ajoute les pédophiles laïcs. Et l'Église s'est tue. Une indifférence profonde, cruelle, accuse le rapport de la commission présidée par Jean-Marc Sauvé, la CIAZ, dont les conclusions étaient présentées aujourd'hui. 250 victimes entendues, des archives épluchées, 2 ans et demi de travail et une institution, l'Église catholique. Catholique sonné, on l'entend dans les mots de l'archevêque de Strasbourg, Luc Ravel.
Aujourd'hui, cette vérité est terrible. D'abord, ahurissement devant les chiffres. Derrière ces chiffres hallucinants, des personnes, des visages. Je reçois aujourd'hui comme un tsunami ces masses de souffrances accumulées, ces vies percutées, des centaines de milliers d'enfants, jamais accompagnés par l'Église, condamnés au silence, piégés dans la confiance qu'ils portaient à cette même église ou à tel ou tel prêtre. Nous sommes à la croisée des chemins. L'avenir de l'église en Alsace et en France se joue aujourd'hui. Si nous minimisons ce rapport de la CIAZ en le rangeant sur une étagère, alors l'église du Christ en France n'a plus d'avenir, sinon sous la forme d'une petite secte moralisatrice.
Les mots très forts de l'archevêque de Strasbourg avec Julien Penaud de France Bleu Alsace. Le président de la conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort, a dit sa honte, son effroi. Il demande pardon face au phénomène systémique que décrit le rapport. Les prédateurs sont entre 2900 et 3300. Et ce qui est particulièrement frappant, c'est que si on met de côté les violences au sein de la famille, plus de la moitié des agressions, c'est bien au sein de l'église. L'Église que les violences sexuelles sont les plus élevées, bien plus que dans les colonies de vacances, les clubs de sport ou à l'école. Enquête réalisée pour la commission par la sociologue et directrice de recherche à l'INSERM, Nathalie Bajos.
Les grands facteurs qui expliquent le fait qu'il y ait plus, 2 fois plus d'abus dans l'Église catholique que dans les écoles publiques, par exemple, c'est la question de l'autorité sacrale, la dimension symbolique, l'absence de contre-pouvoir. Il y a une autre dimension qu'on évoque aussi dans le rapport de l'INSERM, qui est celle de le fait que l'Église soit une institution qui revendique dans sa structure et dans sa culture la domination masculine. Et on sait, par tous les travaux qui existent dans ce domaine sur la sexualité, que tout ce qui concourt à légitimer la domination masculine favorise les violences sexuelles. Et si je fais ce détour, c'est pour dire que ces facteurs explicatifs de plus d'abus sexuels dans l'Église sont toujours présents aujourd'hui. Donc, la surexposition qu'on observe au fil du temps, sociologiquement, elle est encore d'actualité.
On ne peut pas considérer que le problème est derrière nous, dit en effet le rapport qui distingue plusieurs périodes. Les années 50-60, celle de la majorité des abus, 56%, celle du secret total. La hiérarchie cherche à se protéger du scandale, les victimes sont occultées. Il faut attendre le milieu des années 2010, la retentissante affaire Préna-Barbarin pour qu'il y ait reconnaissance et encore de façon très inégale selon les diocèses. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir.
Alors il y a une responsabilité collectif que l'Église va devoir endosser, juge la Commission, et le rapport formule à 45 préconisations.
Oui, et puisque l'Église est responsable, la question est tranchée très clairement par le rapport. Les préconisations s'articulent autour de quatre pistes. D'abord, il faut réformer le droit de l'Église. Un exemple concret, le droit canonique assimile pour l'instant la pédocriminalité au sixième commandement. Tu ne commettras pas l'adultère. La Commission demande de faire référence à la place au cinquième. Tu ne tueras point. La Commission souhaite ainsi lever partiellement le secret de la confession pour obligé à dénoncer les violences sexuelles sur mineurs. L'objectif, c'est de faire primer le droit de la République sur celui de l'Église. La Commission veut ensuite réformer la gouvernance catholique. Il faut y associer plus de laïcs, notamment des femmes. Il faut ensuite une profonde réforme de la formation des prêtres et des clercs. Enfin, la Commission estime que les textes religieux ont parfois été dévoyés, ont servi à justifier certains actes criminels. C'est le fondement théologique de l'Église qu'il faut questionner, demandent les auteurs de la Commission, pour éviter les postures de surplomb, de domination.
Et la question est aussi celle de l'indemnisation, hein, Rémi, la réparation financière.
C'est une partie qui fait déjà débat. La Commission demande à l'Église d'individualiser le calcul de l'indemnisation due à chaque personne victime, mais pas question de recourir aux dons des fidèles. Alexandre Ezez, membre de l'association de victimes lyonnaise La Parole Libérée, salue cette recommandation.
Il va bien falloir trouver cet argent. Ce n'est pas le fonds d'indemnisation des victimes et les impôts qui doivent payer cette partie-là. Effectivement, c'est l'Église qui doit à un moment trouver de l'argent pour indemniser toutes ses victimes. L'Église n'aura pas le choix pour retrouver la confiance, ne serait-ce des paroissiens, en tout cas de ceux qui restent encore dans l'Église.
Et la Conférence des évêques de France vient de mettre en place mi-septembre un fonds de dotation. Les fidèles peuvent l'abonder car la loi de 1905 ne permet pas à l'Église de financer d'autres activités que celles liées à son fonctionnement. Le rapport préconise, lui, la vente du patrimoine. Les évêques de France étudieront les recommandations de la Commission lors de leur assemblée plénière. Ce sera à Lourdes dans un mois.
Rémi Brancato, ce rapport par sa méthode et par ses conclusions est sans équivalent à l'étranger. Et l'on retrouve notre correspondant Bruce de Galzin en direct de Rome parce que c'est peut-être ce qui explique que le Vatican, le pape François, ait réagi très rapidement cet après-midi, Bruce.
Ben oui, à peine 3 heures après la publication du rapport, le pape faisait connaître son immense chagrin pour les victimes. Lui qui était au courant de cette effroyable réalité, comme il l'a qualifié, car le président des évêques de France lui avait remis une note vendredi dernier au Vatican. Le pape fait part de sa douleur face au contenu du rapport, de sa gratitude aussi pour les victimes qui ont eu le courage de dénoncer. Ce rapport est inédit, oui, car jamais une commission n'a fait un tel travail sur les victimes, aux Pays-Bas certes, mais pas aussi poussé. En revanche, il est possible de comparer les agresseurs, le nombre de prêtres prédateurs sexuels. En France, il est estimé à 2,8%, il est de 7,5% en Irlande, 7% en Australie, 4,8% aux États-Unis et 4,4% en Allemagne, qui est un pays intéressant, car après le choc aussi en Allemagne, après le rapport allemand, les évêques ont lancé un synode, un événement important dans l'Église sur les questions de société, mais un synode qui inquiète le Vatican, car certains prônent l'ordination d'hommes mariés, comme le rapport Sauvé, et l'ordination des femmes pour lutter contre les abus, ce qu'a toujours refusé le pape.
Bruce de Galzin en direct de Rome et Jean-Marc Sauvé, le président de la commission indépendante, sera demain l'invité de la matinale. Son rapport en 10 infographies à retrouver aussi sur franceinter.fr.
Il est 19h08. Salaire, pouvoir d'achat, emploi, les syndicats donnent de la voix aujourd'hui.
Journée de grève et de mobilisation à l'initiative de la CGT, Force Ouvrière Solidaire et FSU. 160 000 manifestants à travers la France selon la CGT ce soir. Plusieurs milliers de personnes à Paris. Manuel Ruffez leur a tendu son micro.
Les jeunes dans la galère, les jeunes dans la misère de cette société-là.
Dans la grande distribution à Carrefour, le salaire il est à peine au-dessus du SMIC. Je gagne presque 1400, mais dans ces eaux-là, et j'ai 32 ans d'ancienneté.
Chez Otis, le souci, je dirais, c'est que l'ancienneté ne paye pas. C'est-à-dire que les gens qui ont 30 ans d'ancienneté sont quasiment au même salaire qu'un nouveau, un jeune qui arrive. Ça va tourner autour de 2200 euros.
Un jeune qui est embauché,
ça doit être aujourd'hui 1800, un peu plus de 1800 euros.
On est là parce qu'on est enseignant et que ça va pas du tout dans l'éducation nationale en ce moment. Donc on est ensemble pour manifester pour les mêmes choses, donc les salaires, les retraites, les conditions matérielles de travail.
Alors en ce moment, Renault touche des subventions de l'État et en même temps licencie et augmente le temps de travail. C'est pour ça qu'on se sent concerné, mais malheureusement, il n'y a pas trop de monde. Par rapport à l'augmentation du gaz, l'électricité, enfin du gasoil, il n'y a pas assez de monde aujourd'hui qui manifestent leur mécontentement.
L'urgence salariale entendue dans les cortèges, dans l'hôtellerie-restauration, justement. Le patronat propose aujourd'hui des hausses de salaire de 6 à 8,5%. Et le pouvoir d'achat, il pèse à quelques mois d'une présidentielle. L'exécutif tente donc de diminuer la facture énergétique déjà avec son bouclier tarifaire. À l'Assemblée cet après-midi, le Premier ministre Jean Castex s'est engagé sur une baisse de taxes. Si cela ne suffit pas, un amendement sera ajouté au projet de loi de finances. Aux États-Unis, c'est Facebook qui a une journée difficile. Après l'énorme panne hier sur ses principales applications, elle a duré plus de 2 heures tout de même. Voici une audition pour le moins gênante pour le géant, celle de l'ancienne chef de produit, ingénieur, qui a quitté l'entreprise en mai dernier et qui accuse le géant de privilégier le profit à la sûreté. Sébastien Paour, notre correspondant à Washington, a suivi son audition devant le Sénat. My name is
Frances Haugen. Elle se présente et résume d'entrée son choix de rendre public ce qu'elle nomme la réalité de Facebook. Je suis ici aujourd'hui parce que je crois que les produits de Facebook nuisent aux enfants, alimentent les divisions et affaiblissent notre démocratie. La panne d'hier a permis, d'après elle, d'éviter pendant 5 heures que des jeunes filles se sentent mal dans leur peau parce que les choix qui sont faits en interne sont désastreux et ils ne visent, selon elle, qu'à faire gagner de l'argent à Facebook. Facebook a toujours résolu ses conflits en faveur de ses propres profits. Elle est devenue une entreprise de près d'un milliard de dollars sur le dos de notre sécurité. Elle dit croire en Facebook, mais regrette que presque personne hors de l'entreprise ne soit au courant de ce qui s'y passe. Une société aussi puissante et influente a besoin d'être surveillée. Non seulement l'entreprise cache la plupart de ses propres données, mais mes révélations ont prouvé que lorsqu'on pose directement à Facebook des questions aussi importantes que « Comment évaluez-vous votre impact sur la santé et la sécurité de nos enfants », ils choisissent de ne pas répondre ou à côté. Et elle conclut à l'adresse des élus. Vous connaissez maintenant la vérité sur les perturbations causées par Facebook. Je vous demande d'agir. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Un tête-à-tête pour sceller la réconciliation. Le chef de la diplomatie américaine s'est entretenu avec le président français cet après-midi à Paris. Après l'affaire des sous-marins australiens, il s'agit de préparer des décisions concrètes avant la venue de Joe Biden en Europe pour le G20 de ce mois-ci en Italie.
Le procès du groupuscule OAS, c'est le premier dossier de terrorisme d'ultra-droite à être jugé.
Un groupe radical créé en 2016 qui projetait des attentats contre des mosquées, des synagogues, mais aussi contre certains hommes politiques comme Christophe Castaner ou Jean-Luc Mélenchon. Ils sont 6 à être jugés devant le tribunal correctionnel de Paris et les réquisitions viennent de tomber. Sévère, l'Aurélie Carive, jusqu'à 10 ans de prison pour Logan Nizin, le chef autoproclamé de cette organisation.
Pour la procureure, la menace que représente le terrorisme d'ultra-droite est aujourd'hui une réalité concrète, tangible. Elle fait un parallèle avec le terrorisme djihadiste. Deux idéologies jumelles, dit-elle. Même fascination pour la violence et les armes, même vision binaire du monde. Autrement dit, deux faces opposées d'une même pièce, fanatique et totalitaire. Selon le ministère public, si elle n'avait pas été démantelée, l'OAS serait passée à l'acte. Pour preuve, ses entraînements au tir, ses recherches d'armurerie à braquer, ses contacts avec un fournisseur d'armes lourdes en Europe de l'Est. Au sommet de cette organisation clandestine, Logan Nizin, jeune homme phagocyté par ses idées mortifères, à la détermination sans faille, insiste la procureure. Elle réclame contre lui 10 ans d'emprisonnement. Contre ses 5 camarades, dont plusieurs sont décrits comme pétris de haine, profondément racistes, elle a requis de 1 à 8 ans de prison ferme. Place en ce moment aux plaidoiries de la défense. Deux avocats ont déjà demandé la relaxe pour leurs clients qui, au cours du procès, ont expliqué que tout ça n'était que des mots pour impressionner la galerie, mais derrière, aucune intention de mettre leurs paroles à l'exécution.
L'Aurélie Carive, le détenu qui avait pris en otage 2 surveillants ce midi à la prison de Condé-sur-Sarthe, s'est finalement rendu. L'un des surveillants a été blessé à l'œil droit. Le ministre de la Justice s'est rendu sur place. Les révélations de France Inter ont fait bouger l'institution. L'Académie Goncourt revoit ses règles et retire un roman de sa liste, celui de François Nudelman, compagnon de l'une des jurées, Camille Lorenz. C'est Ilana Moriousef qui avait pointé ce qui ressemblait à un vrai conflit d'intérêts. L'Académie a donc réagi, Ilana.
Éteindre l'incendie, minimiser le scandale, telle semble être la préoccupation du jury Goncourt. Son président, Didier Decoin, joint juste après la réunion de la mi-journée.
C'est une histoire qui a été vraiment montée en mayonnaise par des réactions de la presse qui ont été un peu, comme ça arrive, mais je comprends, j'ai fait ce métier avant vous, hein, qui ont été un peu excessives et qui ont cherché la petite bête et qui ont fait gonfler le truc. Mais en fait, à l'intérieur de l'académie, c'était pas une énorme affaire.
Bien entendu, on n'est pas obligé de le croire sur parole. Car si l'épisode avait eu si peu d'importance, il n'aurait pas été nécessaire d'adopter deux nouvelles règles. Premièrement, interdiction de sélectionner un livre écrit par un proche d'un membre du jury. En vertu de quoi, le livre de François Noudelman, compagnon de Camille Laurence, a été sorti de la sélection. Deuxièmement...
Deuxième point, c'était de préciser que les membres de l'Académie qui ont une rubrique dans un journal doivent s'abstenir de chroniquer les bouquins qui figurent dans la sélection du concours aussi longtemps que ces ouvrages y figurent.
Je voudrais savoir si vous avez examiné l'éventualité de sanctions à l'encontre de Camille Laurence.
Non, parce que ça ne se posait, la question ne se posait pas.
Il faut noter tout de même que le livre d'Anne Berest, La carte postale, sévèrement critiqué par Camille Laurence dans le journal Le Monde, est maintenu dans la sélection.
Il en reste 9 livres dans cette deuxième sélection de l'Académie Goncourt.
Il est 19h15, oulala, presque 16, dites-moi, et vous l'entendez depuis ce matin, y compris bien sûr dans le 18-20, journée spéciale avec les Afghanes aujourd'hui.
Quel droit pour celles qui restent, quelle vie pour celles qui fuient. Isabelle Pasquier a rencontré une jeune cinéaste, photojournaliste, Roya Edari, c'est son nom, accueillie fin août par l'Atelier des artistes en exil à Paris.
Ses grands yeux noirs ont du mal à maquiller sa tristesse et son inquiétude. Avec pour tout bagage, ses appareils photos et sa caméra, Roya Edari a tout laissé derrière elle. Sa famille et son métier de photojournaliste, très engagé dans la lutte pour l'égalité homme-femme. Très suivi sur les réseaux sociaux, Roya est une activiste qui dérange, d'autant qu'elle est une femme hazara, minorité chiite, persécutée par les talibans. Elle était donc doublement menacée.
Toutes les femmes sont menacées. C'est pas forcément une menace de mort, mais c'est l'interdiction de travailler, même s'il n'y a aucun homme dans la famille. Alors comment tu peux survivre? Depuis l'arrivée des talibans, plus aucune femme journaliste afghane n'a eu d'autorisation de travail. Ils te prennent ta liberté, ta vie, tu ne peux plus vivre.
Et aujourd'hui, Roya garde l'espoir d'une mobilisation internationale contre le pouvoir taliban.
L'aide, ce n'est pas que la nourriture et l'argent. Ce qu'il faut, c'est une mobilisation internationale pour ne pas reconnaître le gouvernement taliban. Car les premières victimes de leur loi, ce sont les femmes innocentes et les enfants. Évidemment, les vrais combattants sont en Afghanistan, ceux qui ont décidé de rester. Mais je veux être leur miroir, l'écho de leur lutte.
Roya qui espère repartir un jour en Afghanistan pour lutter pour la liberté avec ses photos.
Des témoignages que vous entendez donc depuis ce matin, juste après ce journal. On évoquera les conditions d'accueil des réfugiés avec vous, Fabienne, dans le téléphone sonne. Oui. Et ça continue ce soir, là on en parle avec vous. Bonsoir André Manoukian.
Bonsoir.
Un concert assez unique ce soir, à partir de 20h.
Assez unique, avec une chanteuse afghane, et puis aussi deux groupes, Massoud Hassamzana et Humayoum Ibrahimi. Mais surtout, j'ai l'impression que c'est une la musique afghane est vraiment en danger. Je discutais avec Masha Larman, qui est une grande chanteuse qui vit à Genève. Son père était quelqu'un de la radio. Ils ont compilé toute la musique afghane avant que la catastrophe n'arrive. Et elle me dit, cette musique, toutes ces musiques-là sont en train de disparaître. Il n'y a pas une musique en Afghanistan. Il y en a, c'est une véritable mosaïque. Donc ce soir, on a un petit avant-goût.
Masha Larman, soprano, hein.
Exactement, je vous la fais écouter tout de suite. Elle joue avec une joueuse de santour qui est grecque. Elle a un instrument qui est... Quand moi je regarde ces instruments, quand j'écoute ces chants, j'entends vraiment qu'on est aux origines à la croisée de routes d'Orient qui me touchent. La musique afghane est influencée par la musique des Perses. La musique des Perses est une musique savante. On appelle ça les makams, c'est-à-dire l'art de tourner autour, l'art de faire des gammes hyper envoûtantes. On est à la croisée de l'Inde et on est dans un pays qui était d'une richesse absolue. Tout ça est en train de disparaître. Quand je vois les images des pianos qui sont fracassés, quand je vois les images des instruments de musique qui sont fracassés au nom d'une lubie totale, Voilà, ça me fend le cœur et on est avec des musiciens qui sont aussi le cœur fendu, mais en même temps ils ont leurs instruments et c'est une sorte de blues qu'on va entendre. Mais la musique, elle finit toujours par gagner. De
une
toute
soirée
façon.
Qui va témoigner de tout ça.
Exactement.
Hein, ce soir.
Avec Yeli, avec Yael Naïm aussi, les copines qui sont venues,
la
Amélie
musique,
Loiseau. Exactement.
Des témoignages en studio, en direct du 104 tout à l'heure de la Maison de la Radio et de la Musique. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, André.
Et on peut continuer à arriver d'ailleurs, hein, André, si je ne m'abuse. Il y a encore quelques places, donc si vous n'êtes pas loin, allez-y, vraiment, profitez-en. Merci beaucoup à vous deux, merci Hélène. Nous, on se retrouve demain, on reste ensemble pour le téléphone sonne. On a entendu beaucoup de témoignages jusque-là. On va essayer de voir avec les associations, avec l'OFPRA, avec Ayam Suro qui est resté avec nous, ce qu'on peut faire désormais pour les Afghanes, comment fonctionne l'asile, surtout pour elles, et on l'espère pour le moins longtemps possible, au fond. Allez, un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Élodie Calac, l'amélioration arrive par l'ouest.
Oui, on aura de belles éclaircies demain entre la Manche, la région parisienne, le centre Val-de-Loire et les Charentes. Sur le sud-ouest, le massif central, le Lyonnais et la Bourgogne, patience, un nuage et grisaille le matin, mais ça s'éclaircira bien l'après-midi. En revanche, des frontières du nord vers la Franche-Comté, le nord des Alpes, là les nuages seront nombreux avec quelques averses, surtout le long des frontières du nord. Et puis en Méditerranée, vous aurez du soleil, mais du vent.
Petite baisse de température, Élodie, également.
Oui, 6 à 10 degrés le plus souvent le matin, un petit peu plus en bord de mer. Et puis l'après-midi, pas plus de 14 degrés à Lille, à Nancy, 16 à Lyon, 17 à Paris, Caen ou Limoges, 19 à Nantes, à Marseille également, 20 degrés du côté de Bordeaux et 23 à Bastia, Fabienne.
Et Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup Élodie.